le point de 12h. C'est sur la 93.4. Présentation Tera Liliane.
Fidèle ami, auditeur, bien-aimé du Seigneur, bienvenue au point de l'actualité de ce vendredi. Voici pour vous le sommet. Le président de la transition, chef de l'État, a échangé hier jeudi en fin de matinée avec une délégation des fonctionnaires internationaux burkinabés présents à Ouagadougou dans le cadre de la première édition de leur forum. Nous les entendrons en début d'édition. Également dans cette édition, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Emmanuel Ouédraogo, a effectué une visite sur le site du FESPACO pour s'imprégner de l'état d'avancement des préparatifs de la 28e édition. Les détails en cours d'édition. Également dans ce journal, comment délivrer des actes de naissance au PDI et numériser le fichier pour en faire une base de données unique. C'est ce qui a réuni le cadre permanent des acteurs de l'état civil. Plus de détails en cours d'édition. Mais avant de débuter, je vous lis ce communiqué. Il est porté à la connaissance de la population, des marketeurs et des gérants de stations-service que l'exportation du carburant et du gaz butane du Burkina Faso est formellement interdite. En rappel, le carburant et le gaz butane distribués par la Sonabi sont des produits subventionnés par l'État au profit des populations du Burkina Faso et ne sauraient être commercialisés hors de nos frontières. Le ministre du Commerce s'est compté sur la compréhension et la collaboration de tous pour le respect des termes du présent communiqué. En tout état de cause, les services de contrôle compétents procéderont à la saisie des produits et du matériel destinés à l'exportation illégale et les contrevenants seront sanctionnés conformément à la réglementation en vigueur. Le communiqué est signé de Serge Nyanyodem Poda, ministre du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprise. Et cet autre communiqué, il est porté à la connaissance des marketeurs et des gérants de stations-service que dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, la vente du carburant dans les bouteilles, les bidons, les fûts, les barriques et autres ustensiles est formellement interdite sur tout le territoire national. Toutefois, il est accordé une dérogation aux utilisateurs professionnels et aux revendeurs dans les zones dépourvues de stations-service. À cet effet, ils devront au préalable se faire délivrer une autorisation par les services compétents au niveau régional. Tout contrevenant s'expose à des sanctions prévues par les textes en vigueur. Le ministre s'est compté sur la compréhension et la collaboration de l'ensemble des acteurs pour le respect des termes du présent communiqué qui est signé du ministre Serge Nyanyodem Poda. Le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a échangé le jeudi 29 décembre en fin de matinée avec une délégation des fonctionnaires internationaux burkinabés présents à Ouagadougou dans le cadre de la première édition de leur forum. Un forum consacré à la contribution des fonctionnaires internationaux au développement inclusif du Burkina Faso. Ce face-à-face avec le président du Faso a été l'occasion pour les fonctionnaires internationaux d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État pour la tenue du forum en dépit du contexte difficile. Le point avec Rosalie Sana.
Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a échangé avec une délégation des fonctionnaires internationaux burkinabés présents à Ouagadougou dans le cadre de la première édition du Forum international des fonctionnaires internationaux burkinabés. Et selon la ministre des Affaires étrangères, Olivia Rwamba, qui a conduit la délégation, cette rencontre a été une occasion pour les fonctionnaires internationaux d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État pour la tenue du Forum en dépit du contexte difficile. La rencontre a également été une opportunité pour les fonctionnaires de recueillir les orientations du chef de l'État et de s'imprégner de la vision du président de la transition. Le chef d'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a salué l'esprit patriotique des fonctionnaires internationaux à travers la tenue de ce forum qui est l'expression de leur attachement manifeste à la mère patrie qui traverse des moments difficiles. À cette occasion, le chef d'État a dépeint la situation nationale marquée par une double crise sécuritaire et humanitaire toujours préoccupante. Face à cette situation, le président du FASO a expliqué aux fonctionnaires internationaux que des actions sont en train d'être développées pour lutter contre le terrorisme et pour le retour des personnes déplacées internes dans leurs différentes localités d'origine. Dans cette perspective, le président a réaffirmé sa volonté de se battre avec l'ensemble des fils et filles du pays pour reconquérir et libérer toutes les parties du territoire national sous occupation terroriste et pour le bien-être de la population. Au cours des échanges, le président, le capitaine Ibrahim Traoré, a invité les fonctionnaires à rester unis et toujours solidaires de la mère patrie. La représentante des fonctionnaires internationaux, Madame Élise Ouattara, a salué l'initiative des nouvelles autorités à travers l'organisation du forum, un cadre d'échange interactif et d'expérience au profit de la mère patrie. Elle a réaffirmé l'engagement des fonctionnaires internationaux à accompagner le chef de l'État à travers leur expertise.
Le deuxième contingent de la classe 2022 de l'armée nationale a été présenté au drapeau hier jeudi à Bobo-Dioulasso. Ils sont au nombre de 3000 soldats aguerris. Ils sont prêts à défendre la nation. La sortie a eu lieu au camp Wézin Koulibaly. Franck Tapsoba.
3000 soldats, c'est l'effectif du deuxième contingent de la classe 2022 de l'armée nationale présenté hier au drapeau. Ces soldats de deuxième classe ont passé 4 mois au sein du GIFA pour être initiés aux techniques de combat articulées en 3 phases.
La première phase a été consacrée à l'adaptation, la seconde, l'aguerrissement et la dernière, la consolidation des acquis. Un accent particulier a été mis sur l'entraînement physique, militaire et sportif, le combat, l'instruction sur les tirs au fusil et l'armement. Ces jeunes gens ont, durant 4 mois de dure labeur, atteint les objectifs de la formation qui étaient de leur inculquer un esprit militaire, de faire d'eux des combattants aguerris et de leur faire acquérir un esprit républicain.
Ils ont montré une détermination à défendre, vaille que vaille, leur pays, leur territoire. Et c'est le lieu pour moi ici de demander à la population de les soutenir, de quelque manière que ce soit, de nous soutenir, parce que c'est ensemble que nous vaincrons.
Ces soldats devront faire preuve de bravoure et de détermination, contexte sécuritaire oblige. Un devoir qu'ils comptent accomplir grâce à l'expérience acquise pendant la formation.
Grâce à nos cadres, on nous a appris des différentes techniques. Toutes les techniques que nous avons eues à pratiquer, nous allons les mettre en pratique sur le terrain.
En tout cas, parmi les garçons, on a pu emboîter le même pas. On ne savait même pas faire la différence entre garçons et filles. On a suivi la même formation, il n'y a pas eu de distinction.
Cette cérémonie était l'occasion pour ces soldats de montrer leur savoir-faire à travers les exercices de combat réalisés à cet effet.
Nous l'avons dit en titre, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Emmanuel Ouédraogo, a effectué une visite sur le site du FESPACO, situé au quartier Gounguin de Ouagadougou, le jeudi 29 décembre 2022. Il est allé s'imprégner de l'état d'avancement des préparatifs de la 28e édition du FESPACO. Elle est prévue se tenir à partir du 25 février 2022. Le ministre a fait le tour des locaux pour constater de visu l'état du matériel et a échangé avec les agents du FESPACO sur leurs conditions de travail. Au sorti de la rencontre avec les agents, Jean-Emmanuel Ouédraogo se dit rassuré.
Rassuré quant à la dynamique actuellement dans la préparation de ce festival du cinéma à Ouagadougou ici. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'on est à près de 70% actuellement de taux déjà exécutés dans les préparatifs. Et aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que la dynamique qui est enclenchée, si elle est maintenue ainsi, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avoir une belle 28e édition du FESPACO.
Jean-Emmanuel Ouédraogo a félicité les agents qui se montrent résilients malgré le contexte sécuritaire. Selon le délégué général du FESPACO, Alex Moussa Sawadgo, ils ne sont pas seuls dans ces préparatifs de la 28e édition du FESPACO qui va s'achever le 4 mars 2022.
Les films sont sélectionnés. Nombreux sont les, disons, quelques partenaires qui ont déjà confirmé positivement pour le soutien du FESPACO. Et techniquement, c'est-à-dire les activités extra que nous organisons dans le cadre du FESPACO, tout cela est prêt. Il reste juste voilà, quelques points à pouvoir ficeler. Puis on espère bien qu'au 25 février, tout le monde sera là pour la belle fête.
Et durant la visite, le ministre s'est imprégné des difficultés que rencontrent les agents dans l'exercice de leurs fonctions. En ce qui concerne les doléances des agents, le ministre a rappelé qu'il ne faut pas oublier le contexte actuel qui prévaut au Burkina Faso. C'est pourquoi il est important que le comité d'organisation du FESPACO œuvre à ne pas dépasser le budget alloué par l'État. Le traitement de l'information en temps de crise, c'est la thématique qui est au cœur d'un atelier de renforcement de capacité des journalistes sur les bonnes pratiques journalistiques. Une trentaine d'hommes et femmes de médias ont pris part à l'atelier, une rencontre organisée par le ministère en charge de la communication. Le compte-rendu de Rosalie Sana.
Une trentaine d'hommes et de femmes de médias ont pris part le jeudi 29 décembre à un atelier de renforcement de capacité des journalistes sur les bonnes pratiques journalistiques à Manga. Une rencontre organisée par le ministère en charge de la communication et qui entre dans le cadre des recommandations de la 12e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou, UACO, tenue du 24 au 26 novembre 2021. Selon Fidèle Tamini, la toile est inondée d'informations non fondées qui n'apportent aucune plus-value si ce n'est que saper les efforts déployés au quotidien pour lutter contre le terrorisme. La désinformation est omniprésente selon lui et exacerbe la psychose au sein des populations. Il est donc important que les acteurs de l'information soient interpellés pour y faire face en diffusant l'information, la vraie. Car, dit-il, l'information est un bien vital en période de crise. 3 modules ont été présentés aux participants issus des médias privés et publics. La première communication a porté sur l'Internet et les technologies de l'information et de la communication qui ont révolutionné le journalisme. La seconde s'est articulée sur le fact-checking qui est une pratique journalistique qui consiste à enquêter sur des déclarations, chiffres et statistiques qui circulent dans la sphère publique afin de s'assurer de leur véracité. Et enfin, la troisième communication, elle, a porté sur la responsabilité sociale du journaliste dans le traitement de l'information en contexte de crise. Ces communications ont été animées par des experts en la matière et les communicateurs ont invité les hommes et femmes de médias à se départir de la course effrénée aux scoops et des pratiques non journalistiques. À l'autorégulation qui est l'une des pratiques recommandées dans les rédactions pour réduire les erreurs et à ne pas tomber sous le coup de la loi dans le contexte de crise sécuritaire. Le journaliste Alfred Nikima lui a invité les journalistes à plus de prudence dans l'utilisation du thème terroriste. Selon lui, les hommes et femmes de médias doivent faire appel à leur conscience, être impartiaux et faire attention à ne pas tomber dans le panneau d'une éventuelle instrumentalisation en politique. Car, dit-il, toute l'information en temps de paix ou de crise doit être basée sur les faits. Les journalistes ont été interpellés aussi à garder à l'esprit que la première obligation d'un journaliste est de chercher à dire la vérité. Ne diffuser une information que si elle est rigoureusement vérifiée et validée.
Et comme annoncé en titre, faciliter l'obtention au PDI des documents d'identité, comment délivrer des actes de naissance au PDI et numériser le fichier pour en faire une base de données unique, c'est ce qui a réuni le cadre permanent des acteurs de l'état civil. Une rencontre débutée hier jeudi à Ouagadougou. Franck Tabsova.
Le but de cette rencontre du ministère de l'administration territoriale est de fournir à chaque Burkinabé un acte de naissance. Malheureusement, le code des personnes et de la famille qui régit l'état civil depuis 1990 ne répond plus à la situation actuelle du pays du fait du terrorisme.
Dans le code des personnes et de la famille, c'est là où vous êtes né que vous devez obtenir votre document d'état civil. Alors qu'aujourd'hui, avec l'insécurité grandissante, il est difficile à ces personnes déplacées internes là de pouvoir avoir leur acte d'état civil.
À cette rencontre de 2022 du cadre permanent des acteurs de l'état civil, tout se penche pour l'adoption d'une loi spécifique de l'état civil qui permettra la numérisation du fichier et la mise en réseau des serveurs de l'état civil.
De sorte que la gestion au niveau déconcentré, jusque dans la préfecture, dans les communes, que lorsque on enregistre la naissance d'un enfant, que cela soit vraiment fait une fois pour de bon, que même si par la suite il y a un problème lié à des attaques terroristes qui détruisent par exemple les documents physiques, que cela ne puisse pas porter préjudice, mais qu'on puisse de façon centralisée avoir les informations relatives à l'état civil des personnes.
Des partenaires internationaux et autres acteurs étaient à cette journée de réflexion. Elle a abouti à l'élaboration d'un projet de loi qui prendra en compte toutes les situations non contenues dans le code des personnes et de la famille.
L'actualité nationale et internationale, c'est sur la 93.4.
À l'international, les 46 militaires ivoiriens soupçonnés d'être des mercenaires et détenus au Mali depuis juillet ont été jugés jeudi à la cour d'appel de Bamako, selon les informations. Le 10 juillet dernier, 49 soldats ivoiriens avaient été arrêtés au Mali, qualifiés de mercenaires, puis inculpés en mi-août de tentatives d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et formellement écroués. Trois femmes ont été libérées par la suite. Écoutons.
Les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet étaient ce jeudi devant les juges de la cour d'appel de Bamako. Mi-août, ils ont été inculpés de tentatives d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Ces militaires sont considérés comme des mercenaires par Bamako, ce que réfute Abidjan, qui affirme qu'ils sont arrivés dans la capitale malienne dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali et a depuis exigé leur libération. Il s'agit d'un jugement spécial sans audience publique. Ce procès se tient une semaine après une rencontre entre les autorités des deux pays sur le sujet. Un dialogue qui, selon le ministre ivoirien de la Défense, s'est soldé sur une note positive. Début décembre, à Abuja, au Nigeria, les dirigeants ouest-africains avaient exigé leur libération avant le 1er janvier, sous peine de nouvelles sanctions contre le Mali.
Toujours hors de chez nous, la légende du football mondial, le Brésilien Edson Di Pelé, est décédé jeudi à l'âge de 82 ans. Le monde du football pleure son mythe. Véritable figure majeure du ballon rond, le Brésilien, né le 23 octobre 1940, est considéré comme le plus grand joueur de l'histoire. Il faut dire que celui qui portera le nom du roi Pelé a eu une carrière hors du commun. Suivons.
Le Brésilien Pelé, première star planétaire du football, est mort ce jeudi à l'âge de 82 ans, après avoir lutté pendant plus d'un an contre le cancer. « Nous t'aimons à l'infini, repose en paix », a écrit Kelly Nascimento, une de ses filles, sur Instagram. Une publication illustrée d'une photo des mains jointes des membres de sa famille posée sur celle de l'ancien footballeur. L'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, où il avait été admis il y a un mois, a précisé dans un communiqué que le décès a été causé par une défaillance de multiples organes. Seul footballeur ayant remporté à trois reprises la Coupe du Monde, Pelé, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, avait été élu athlète du siècle par le Comité international olympique en 1999. L'annonce de sa mort est un choc pour tous les amateurs de football, 11 jours après la fin de la Coupe du Monde au Qatar.
Amis de la radio Évangile Développement, c'est tout pour notre point du jour. Merci pour votre fidélité. Merci de suivre et d'écouter la 93.4. Très bonne suite de programme. Soyez bénis.